et bienvenue pour un autre épisode du BFP
qui nous mène 5 million years ago.
5 million years. c'est une blague. Alors, en fait, on va parler. Comment je parle ? On va parler du troisième Quatermass, du pinacle de Quatermass, même si Quatermass 4 est aussi bon. Mais je trouve qu'en fait, la pointe des Quatermass se trouve à Quatermass and the Pit.
Oui, Quatermass and the Pit. Et ensuite, effectivement, ça ne descend vraiment que très légèrement.
Hein. Très légèrement, mais en tout cas, c'était... Ah, c'est difficile. Moi, j'ai mis côte à côte.
Ouais, moi, j'ai une petite préférence pour le 4. Mais bon, bref. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de Quatermass and the Pit.
Alors, Quatermass and the Pit est une série, une mini-série de 6 épisodes, comme tous les autres Quatermass, à vrai dire, diffusée en 58 sur la BBC.
Oui, en fait, ça a été diffusé pendant les fêtes de fin d'année, donc c'est entre 58 et 59.
Voilà.
Ah, c'était charmant, les programmes de fin d'année.
C'est écrit par Nigel Neal. Nigel Neal avait quitté la BBC à cette époque-là, il était revenu parce qu'on l'avait... On l'avait convaincu.
En fait, il était juste pigiste sur le truc. Ouais. Il n'était pas... Enfin, c'est lui qui l'a fait, mais il n'était pas employé de la BBC.
Non, c'est ça. Il était déjà... Il en voulait à la BBC. Honnêtement, oui. Il en voulait vraiment avec cette histoire d'avoir vendu dans son dos le premier Quatermass. Sais-tu nous le résumer rapidement ?
Oui, bien sûr. Alors, nous suivons... des ouvriers qui découvrent dans un chantier londonien... un crâne, et même après plusieurs crânes de proto-humains, on va dire. Donc un paléontologue s'y intéresse, et il découvre que ça pourrait être le fameux chaînon manquant entre le singe et l'homme.
Un des chaînons manquants.
Et il commence à parler de sa découverte extraordinaire, il y a des fouilles qui sont entreprises, on trouve de plus en plus de crânes...
D'ossements, de manière générale.
Et d'ossements, voilà. Sauf que sous les crânes, on découvre aussi ce qui ressemble à être à une fusée allemande, peut-être, qui se serait écrasée pendant la guerre. Sauf qu'elle se trouve dans des couches archéologiques plus anciennes.
Et surtout, elle se trouve sous les ossements.
Oui, voilà, sous les ossements. Donc, en soi, c'est pas possible.
Ouais.
Ça ne peut pas être tombé. Donc au fur et à mesure, le professeur Quatermass s'intéresse à la découverte et avec, toujours en opposition avec l'armée sous laquelle il est, duquel il dépend maintenant que le British Rocket Group a été vaguement réapproprié par l'armée. Il essaye de découvrir de quoi il s'agit et ce n'est pas très jojo.
Ah là là, ah ça y est. Ah bon. Bref.
Comme toujours, les Quatermass, c'est bonjour la déprime. Hein.
Bonjour la déprime. Oui, mais honnêtement, c'est probablement le meilleur scénario.
Oui.
Alors,
c'est la pure horror folk.
Pour recontextualiser, on est en 58.
Oui.
On est 10 ans, un peu plus de 10 ans après la guerre, quand même.
Oui, en tout cas, disons que les gens... Ben c'est comme on disait pour le premier Quatermass, les gens ont encore un souvenir très vivace du Blitz.
Oui.
Donc, et surtout, on trouvait toujours régulièrement des bombes non explosées.
Dans Londres. Et surtout, on trouvait aussi des trésors archéologiques.
Oui.
Parce qu'il y avait eu des découvertes faites sur la ligne du Jubilé.
Mm-hmm. Et oui, c'était des Romains, oui, c'était des fouilles romaines. Et puis c'est toute la période où la paléontologie est sans cesse bouleversée. C'est la période, allez, dans quelques années, on va trouver Lucie. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est même pas 10 ans avant la découverte de Lucie. Donc c'est pour ça, ne regardez pas en pensant avoir des certitudes sur la... sur la connaissance paléontologique, parce que c'est extrêmement dépassé à ce niveau-là.
Hein. Oui, c'est l'époque. Hein. Oui, c'est comme les précédents, c'est-à-dire que c'est de la science-fiction, mais des années 50.
Oui.
Faut pas oublier que techniquement, à cette époque-là, on n'était même pas encore allé sur... On était loin d'aller sur la Lune.
Hein. Oui, et même les premiers Quatermass, on n'était même pas encore dans l'espace. Hein. Ou
oui,
alors, Gagarine venait tout juste de le faire, je ne sais pas, mais...
Je sais plus, mais ça s'est passé quand même assez rapidement, oui. Après fin des années 50, début des années 60.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on est encore loin. En fait, aller sur la Lune, aller dans l'espace, c'est encore de l'imaginaire pour cette époque-là. Tout le côté scientifique qui est effectivement maintenant un peu dépassé... forcément à l'époque ça marchait encore. Moi ce que j'apprécie beaucoup avec cette histoire, et je pense que c'est un des points forts de la plupart des Quatermass, c'est que ça utilise beaucoup d'éléments scientifiques, enfin pseudo-scientifiques, mais ça ne les surexploite pas. Mais ça ne devient pas une espèce de jargon pseudo-scientifique.
Ouais, c'est pas du technobubble à la Star Trek ou parfois même à la Doctor Who.
Voilà, c'est ça. Donc ce qui fait que, il y a des trucs qui sont un peu, on tord un peu le cou à la science, effectivement, mais c'est pas un élément central, c'est juste un élément pour crédibiliser ce qui se passe. C'est pas la solution, mais ça en fait partie, et en fait c'est ce qui rend crédible, et il y a pas mal d'éléments qui fait que
la science-fiction c'est littéralement de la science mais fictionnelle, donc c'est normal qu'il y ait parfois des sciences un peu tirées par les cheveux, mais c'est pas un ta gueule c'est magique.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est l'expression exacte, c'est ça, c'est que c'est pas un ta gueule c'est magique. Alors, 6 épisodes qu'on a cette fois-ci en entier, qu'on a en très bonne qualité. D'ailleurs, si vous voulez voir Quatermass and the Pit, vous avez deux possibilités. Donc, une que je vais fortement vous conseiller. Vous avez soit le DVD qui contient les 3 céréales, édité par la BBC depuis un petit moment, qui avait d'ailleurs été déjà très bien restauré. Hein, ils avaient fait un très bon boulot. Quatermass and the Pit était celui qui était déjà le plus beau. Mais il y a quelques années, il y a moins de 5 ans, je crois, le Blu-ray est sorti. Alors, on peut se demander pourquoi un Blu-ray. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des éléments en 35 mm, en fait, qui ont été tournés sur pellicule, que je pensais être issus d'une copie pour le cinéma, mais en fait, non, j'ai dû mélanger en fait, plusieurs éléments. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, tourné en studio... Mais pour faciliter le tournage et pour faciliter la transition entre plusieurs décors, ils avaient déjà pré-filmé, soit en décor réel, en extérieur, ou dans des décors utilisés pour ça, des séquences sur pellicule qu'ils diffusaient en direct pendant l'enregistrement, pour permettre aux comédiens et aux techniciens en fait, de se préparer pour la scène suivante. Donc ça permettait, c'était un peu bouche-trou. C'est pour ça que les passages en 35 mm, en fait, déjà, ils se voient. Hein, le gain de qualité est énorme.
Oui.
On regrette vraiment que toute la série, enfin, oui, toute l'histoire n'ait pas été tournée en 35 mm.
Oui, parce que la qualité est vraiment extra.
Ça aurait été magnifique, la qualité est vraiment extra. Ils sont partis des négatifs originaux, je pense. Enfin, en tout cas, ils sont partis des rushs et ça se voit. Et, alors, ça donne une vision un peu bizarre parce qu'on passe... on saute du coq à l'âne en fait au niveau qualité.
Ouais, on passe sans cesse du extrêmement bonne qualité
à qualité vidéo,
télé, quoi.
Ouais, qualité télé. Ce qui en soi pas, ça me choque pas plus.
Il y a que parfois en plein milieu de la scène ça change. Et là c'est plus choquant, mais entre deux scènes, quand il y a un changement qui sont entre deux chaînes, ça me choque moins.
Voilà. Ouais. Et honnêtement, ça n'empêche pas de profiter de l'histoire. Je trouve même que ça permet d'en profiter encore plus parce que ça le rend un peu plus moderne, enfin je dirais.
Oui.
Ça le rend un peu moins.
Oui, ben c'est sûr, ça change de la mouche sur la télé, quoi.
Oui. Et surtout que aussi l'enregistrement est de très bonne qualité parce que dans les années 50, surtout en 58. Le système d'enregistrement sur pellicule de la télé, des programmes télé, était bien abouti.
Oui, par rapport à 53.
Voilà, surtout qu'il y avait une nouvelle méthode, parce que j'étais pas entré dans les détails des précédents, mais il faut, pour faire un peu d'infodumping.
Ouais, vas-y. T'en avais déjà pas mal parlé. Hein.
Oui, mais la télé est diffusée en entrelacé, c'est-à-dire que à cette époque-là, on avait 256 lignes, en tout cas pour Quatermass 2, je crois que c'était composé de 256 lignes sur votre télé, Donc l'écran était décomposé en 256 lignes. Et en fait, pour permettre la diffusion plus facile, en fait, c'était divisé par deux. Et les images étaient diffusées en alternance, en fait. C'est ce qu'on appelle l'entrelacé. L'entrelacé a disparu avec le numérique, même si ça existe encore, honnêtement, mais maintenant on utilise. La télé diffuse peut-être encore en entrelacé, mais en tout cas, tous vos Blu-ray sont maintenant en image complète. D'ailleurs, 1080p, 1080i, le i c'est entrelacé, interlaced, et p c'est picture, je crois, ou plane, je sais plus exactement. En tout cas, le p c'est une image complète et le i c'est entrelacé. Donc voilà, ça vous permet de savoir à quoi ça correspond. Et donc, à l'époque, pour pouvoir filmer pour Quatermass 2, en fait, pour pas gagner en qualité, mais pour pouvoir enregistrer l'image correctement, en fait, il ne n'enregistrait que la moitié des lignes. Sur les deux. Donc, ce qui fait qu'il y avait une partie de l'image, c'est pour ça que la qualité est encore inférieure. C'est tout simplement parce qu'en fait, on n'a que la moitié de l'image. On n'a que la moitié des lignes qui fait la définition complète, la qualité complète de l'image. Et pour Quatermass and the Pit, là, on avait un système qui avait été développé depuis quelques temps déjà, qui permettait d'avoir l'image complète en fait. Le système était un peu complexe à décrire, mais grosso modo, la pellicule permet enregistrer les deux images successivement en fait. Et ça permettait d'avoir une si bonne qualité d'image en fait. Et c'est pareil pour Doctor Who d'ailleurs, ça sera enregistré avec ce système-là, ce qui fait que c'est pour ça que les épisodes sont quand même de bonne qualité.
Oui, ceux qui restent sont
Voilà.
OK.
Donc, favoriser fortement le Blu-ray, surtout qu'il y a des sous-titres anglais.
Oui.
Il y a quelques bonus, donc, dont un générique alternatif qui a été utilisé dans les années 60. Ils ont rediffusé l'histoire en version
Oui.
omnibus, les 6 épisodes en 2 épisodes. Et le générique est aussi présent sur le Blu-ray. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ah ben c'est de la SF folk slash horreur du plus pur jus, hein.
Oui.
C'est des scénarios comme j'aurais aimé en écrire moi-même.
C'est brillant.
C'est brillant.
C'est brillant.
C'est brillant.
C'est brillant. Alors, pour resituer un peu la chose, en fait, il y avait des affrontements
Oui, en fait,
raciaux à cette époque-là
à
en
peu près au
Angleterre.
moment où Neil écrivait son scénario, il y a l'équivalent des skinheads. Enfin bon, il y a toute une bande de blancs, d'anglais blancs,
Raciste.
racistes, qui ont été faire des lynchages dans des quartiers un peu noirs comme ça, ou en tout cas des quartiers d'immigrés à Londres, dans les bas quartiers de Londres, quoi. Ils sont carrément allés faire des lynchages.
Ouais.
Et effectivement, quand on sait ça et qu'on voit le scénario dans sa globalité, oui, il y a de l'inspiration à ce niveau-là.
Oui, c'est un gros commentaire au sujet. Donc l'histoire. Non,
Est-ce que c'est que quand tu commences à regarder l'histoire, tu t'attends pas à ça?
c'est vrai. C'est vrai, parce que ça commence quand même comme une histoire de science-fiction avec un mystère sur le fait comment ce truc s'est retrouvé sous les ossements.
Ouais.
Et puis ça dérive en fait vers l'occulte
Oui.
et vers le satanisme.
Ouais. Pour
Pour
revenir
revenir vers la
aux
science-fiction,
fictions.
et là ça arrive à lier les trois
Ouais. Ouais,
et d'une manière incroyable.
tout sans se perdre en fait.
Non.
Parce que, effectivement, je pense que Terry Pratchett disait que la science-fiction, c'est de la fantaisie avec des boulons. Et je ne suis pas du tout d'accord avec Terry Pratchett.
Non.
J'adore Terry Pratchett, mais j'étais pas du tout d'accord avec lui. Ce n'est pas du tout les mêmes procédés narratifs. D'ailleurs, ça se voit, les rares textes de science-fiction qu'il a écrits, c'est de la fantaisie avec des boulons,
Oui, c'est
effectivement.
ça.
Et c'est un mélange qui, en général, fonctionne bizarrement. Enfin, moi, personnellement, je trouve que les histoires de SF de Pratchett sont au mieux basiques. Au pire, franchement mauvaises pour certaines. Mais et du coup, c'est quelque chose qui fonctionne pas forcément toujours. Soit tu fais de l'horreur pure avec de la science-fiction, soit tu fais de l'horreur avec de la fantasy, mais les trois mélangés,
Oui, moi j'ai pas d'exemple vraiment. En fait, si, les seuls exemples que j'ai, c'est des exemples de Neige
Voilà, ou alors des
Emile.
épisodes comme The Demon
The Demon, oui.
dans Doctor Who, où tu sais cet épisode Canine and
Oui, Canine et compagnie. Mais
Company.
d'ailleurs, j'y pense, The Demon reprend quelques éléments, oui. en fait, finalement, de cette histoire.
Toute la période Pertuis reprend énormément d'éléments de Nage
Unie. Oui, c'est clair. C'est fortement inspiré, oui.
Oui, oui, si vous aimez la période Pertuis, si vous aimez des épisodes comme Infermo ou The Demon, foncez sur Nage Unie.
Vous ne serez pas déçus.
C'est, ouais. C'est de la même cam, c'est même parfois encore, c'est de la cam un peu plus pure.
Oui, Nage Unie n'aimait pas Doctor Who, il trouvait ça trop enfantin.
Oui.
Dommage, hein.
Oui.
Ça aurait été génial, hein. Inferno écrit par Nage Unie. Ah. Ça aurait été encore mieux. Je pense qu'on va vite passer en partie spoiler parce que il faut voir cette histoire et c'est difficile d'en parler sans spoiler, honnêtement.
Et puis, bon, si vous ne le comptez pas aller voir tout de suite, bah, écoutez, honnêtement, c'est pas très grave. Là, à la limite, la surprise, c'est que la moitié du plaisir. C'est vraiment suivre l'histoire qui est intéressante aussi, quoi. Et puis, bon, est-ce qu'on peut parler d'un spoiler d'un programme de 1958 ?
Ah, mais il y en a, oui. Ils n'ont pas envie d'être spoilés.
D'accord.
Bref, on va passer au passage spoiler. Ouais. Donc, moi, ce que je trouve... en fait, la première fois que je l'ai regardé...
Racontons peut-être la fin, comme ça, t'as un contexte, non ?
Non, mais attends, okay, je vais y venir. En fait, je sais que la première fois que je les ai regardés, j'étais déjà abasourdi par Quatermass 2.
Mm-hmm.
Je m'étais dit, oh putain, c'est vachement bien. Et je sais pas, je partais avec un espèce d'a priori bizarre avec Quatermass 3, sans raison, honnêtement. Je sais pas pourquoi j'avais un a priori. Ouais. J'avais rien lu dessus. J'avais strictement rien lu dessus. Et
tu disais, ça peut pas être aussi bien.
Oui, voilà. Et en fait, j'ai été abasourdi par la qualité parce que réussir à expliquer notre racisme interne que la plupart des gens ont envers des peuples différents, ce qui est différent de nous, mélangé aux sciences occultes, aux croyances occultes que beaucoup de gens ont, aux légendes folkloriques qui sont là depuis l'origine du monde quasiment.
Oui, bien sûr, il y a tout ce qu'on appelle la généalogie des mythes.
Oui.
Les mythes sont bien plus anciens que nos civilisations actuelles, et même beaucoup plus anciens que les civilisations de l'Antiquité. La plupart des mythes viennent littéralement de la préhistoire. C'est juste des réécritures et réactualisations systématiques, mais la plupart des mythes, c'est pas pour rien. Je veux dire, tu lis un mythe grec, et soudainement, tu vas lire une mythologie japonaise, il y a strictement la même histoire.
Oui.
Quel rapport ? Mais non, ça peut pas fonctionner si... ça vient pas de beaucoup plus loin, en fait.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est pas qu'ils ont eu la même idée, c'est juste que c'est transmis depuis des générations et des générations, mais depuis l'origine du monde, quoi.
Oui. J'en raconterai peut-être 2-3 tantôt.
Et justement, je me rappelle, ça fait pas cliché, en fait.
Mm-hmm.
On aurait pu penser que cette histoire d'invasion martienne dans le passé, ça puisse paraître cliché.
Oui.
Mais en réalité, non, parce que c'est... Je te faisais la réflexion, mais c'est avec, justement, Halloween 3... ça va jusqu'au cliché et ça s'arrête juste au bord.
Oui.
Ça va jamais au-delà du bord, ça tombe pas dans le précipice de oh mon dieu, c'est cliché, et puis
ouais.
Comme les films pourraient faire en fait.
Mm-hmm.
Et c'est ça qui rend l'histoire géniale parce que ça arrive à justifier tout
mm-hmm.
De manière intelligente.
Il y a une construction de monde derrière. Quoi.
Voilà, il y a quelque chose derrière, et comme il y a un moment où ils viennent juste de découvrir ces fameux insectes dans. Ouais, bon... Comme vous avez vu, normalement, à ce moment-là, vous n'êtes pas surpris qu'on parle d'insectes. Mais ils ont découvert ces fameux insectes dans l'espèce de vaisseau.
Mm-hmm.
Et là, on pourrait croire que ça pourrait tomber dans le cliché de l'extraterrestre visqueux ou un truc dans le genre. Et non, c'est un insecte qui semble bizarre, en fait, puisqu'il a 3 pattes déjà.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est quelque chose d'assez rare, honnêtement.
Il a des cornes un peu space.
Et en fait, on va s'apercevoir tout au long de l'histoire que, à partir de ce moment-là, il y a des trucs, par exemple, dans l'église.
Oui.
Il y a des ornements qui ressemblent à ce personnage-là.
Oui.
Il y a, quand le scientifique Rodney parle dans son laboratoire, il montre un des dessins préhistoriques.
Oui.
Qui montre justement la même tête. Et lui, il dit, regarde un personnage avec un masque folklorique.
Oui.
Et en fait, tu te dis, bah ouais, mais c'est peut-être l'extraterrestre, en fait, enfin, ça vient de là, quoi.
Oui, ou comment, l'image de l'extraterrestre est restée imprégnée dans l'imaginaire collectif.
Dans notre imaginaire, oui.
Et c'est, comment, toutes les histoires de gnomes, de lutins, de démons, comment, de gargouilles viendraient de cette image de être cornu, maléfique.
Oui, c'est ça, et c'est ça qui rend, en fait, l'histoire Si intéressante, surtout quand tu vois les trois derniers épisodes, en
Oui.
particulier le dernier avec le message surtout de Quatermass à la fin qui te dit grosso modo, faites gaffe maintenant qu'on sait ça, on a eu un avertissement, on n'a pas envie que ce soit la deuxième Terre morte à cause de
Ouais.
ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ces extraterrestres-là, l'histoire, c'est que grosso modo, ils seraient venus sur Terre. Suite à la mort de Mars, enfin, a priori c'est ça, c'est Mars est en train de
Ouais.
mourir et donc ils viennent sur Terre pour vivre et ils modifient en fait des singes pour les rendre plus intelligents, tout ça pour un peu transmettre
Oui.
eux-mêmes en
Oui, parce
fait.
qu'en fait, ils pensaient que les singes intelligents allaient les aider à s'adapter à cette planète-là. Ça n'a pas marché, ils sont morts avant, mais ils ont laissé les singes intelligents sur Terre, c'est devenu nous.
Voilà. Mais ce qui est
Et
intéressant, c'est qu'on n'a pas non plus tous les éléments de
non.
l'histoire, un peu comme l'archéologie.
Même chose, comment. On ne s'est jamais clairement dit, est-ce que la chute de Mars est due à une purge de trop? Enfin, une chasse sauvage de trop ou autre chose. C'est
Oui, ça, c'est jamais expliqué, mais on ne le
jamais
saura
expliqué.
jamais.
Non.
Parce qu'en fait, tout ce qu'on a, et ce qui a survécu, c'est juste des brides, en fait,
Oui.
des souvenirs. Et c'est le vaisseau en fait qui transmet ses souvenirs vers nous qui avons été modifiés
Oui.
finalement et qui avons
Et
gardé en
oui.
fait cette image ancrée en nous
Oui.
sans le savoir.
Oui, et là, il y a pas, c'est un vaisseau qui est en Angleterre, mais a priori, il y en aurait
Il y en
plusieurs
aurait plusieurs,
qui,
c'est
voilà,
ça qui est
qui.
intéressant. Mais c'est vrai qu'en racontant ça quand même, on se dit, mais oui, effectivement, ça fait un peu cliché. Mais en fait, c'est la manière dont c'est raconté parce que c'est vraiment. Et c'est un élément assez récurrent en fait, Nigel Neal, et je pense que ça vient du fait qu'il vient de l'île de Man. C'est l'impact du passé et ce qu'il en reste au fur et à mesure de notre vie en
Oui.
fait. Parce qu'il y a ça par exemple dans The Road, même si c'est dans le sens inverse,
Ouais.
mais en tout cas le passé a un impact comme le futur. Mais c'est toujours des brides en fait, c'est jamais l'événement, c'est l'impact de
Un
l'événement en
peu
fait.
comme The Stone Tapes, où ce
Voilà, The
sont des
Stone Tapes.
enregistrements, c'est des enregistrements venus du futur ou du passé qui ressortent.
Voilà, c'est ça, c'est jamais l'événement en lui-même, mais c'est ce qu'il a impacté en fait, c'est sa trace.
Oui.
C'est ça. Et finalement, l'archéologie, c'est un peu ça, puisqu'on voit ce qui
Oui.
reste de notre passé
Oui.
et on en déduit des choses à partir de ça. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, ce qui rend en fait l'histoire, qui aurait pu être très cliché, qui la rend beaucoup plus intelligente en fait. C'est jamais d'avoir une explication totale sur tout.
Oui.
Même si Quatermass a sa théorie, mais tout le temps il dit que
C'est une
c'est
théorie.
qu'une déduction, c'est une théorie, c'est ce qu'il en pense. C'est jamais l'explication totale, parce que si ça se trouve, tu vois,
Oui,
enfin, les
voilà,
singes, il
c'est.
n'y a jamais l'explication exacte sur les singes. Ce ne sont vraiment une histoire percutante en fait. Il y a des moments qui t'ont percuté dans l'histoire.
C'est l'ensemble en fait qui est percutant. Il y a pas forcément de scène qui m'a plus percuté que d'autres. Bon, je m'énervais beaucoup sur les politiciens et sur l'armée parce qu'ils voulaient vraiment pas entendre parler à la voix de la raison.
Bah, c'est Colin Brin qui est le
Oui.
personnage aussi très intéressant, je trouve, dans cette histoire.
Oui, c'est un casse-couille, mais il est intéressant.
Oui. Parce qu'en fait, par exemple, Colonel Brin, ça aurait pu être le cliché du militaire obtus qui fout des bâtons dans les roues. Mais en fait, tu t'aperçois qu'en fait, il veut savoir,
Mais il a
mais il a
peur.
compris, et surtout, ça le dérange tellement qu'il préfère oublier, tu vois.
Ouais.
Parce qu'on voit très bien qu'il comprend en fait ce qui se passe réellement. Parce que c'est lui le premier qui voit les extraterrestres
Ouais.
dans le cockpit. C'est lui qui. Il voit tout ce qui se passe, il
Mais il
ressent
veut
même des
pas.
choses, mais il
Oui.
veut pas, il refuse quoi. Il préférerait détruire et un mensonge plutôt que la vérité. C'est pour ça que c'est lui qui fait en sorte de dire ah mais non, mais c'est un coup des Allemands en fait pendant
Oui.
la guerre. Ils ont essayé de nous piéger à la fin de la guerre, tout ça, alors que y a rien qui laisse supposer ça quoi.
Non.
Et c'est ça, vraiment tous les personnages ont vraiment un élément. Rodney, c'est vraiment le seul qui est intéressé par le passé puisque c'est un paléontologue.
Oui.
Mais c'est marrant parce que c'est le seul finalement qui fait partie des rares à ne pas être infecté
Oui.
parce que émet le
Philolove aussi d'ailleurs.
Fulalove aussi qui est un des personnages récurrents qui vient du premier Quatermass.
Oui.
C'est le journaliste qui aide Quatermass dans le premier et c'est pas le même acteur il me semble, mais en tout cas son personnage revient.
Ah oui, d'ailleurs, Quatermass a encore changé d'acteur. Hein.
Oui.
D'ailleurs, il est très bien, le Quatermass,
Moi,
le
j'aime bien
troisième
celui-là, ouais.
Quatermass. Il est vraiment bien.
Moi, je l'aime bien. Mais finalement, c'est marrant parce que Fula Love et Rodney, qui sont les personnes qui s'intéressent le plus au passé, ce sont les seules enfin, qui s'intéressent aux événements, c'est les personnes qui ne peuvent pas ressentir en fait ce qui se passe.
Oui.
C'est assez tragique pour eux, je
Oui.
trouve. Et surtout.
À se demander si c'est même pas pour ça qu'ils s'intéressent aux choses, vu qu'ils ont quelque chose en moins que
Oui,
les autres à ce
peut-être.
niveau-là.
Peut-être, honnêtement, peut-être. Et ce qui est très intéressant, c'est toute la panique qui est créée par l'engin à cause de l'électricité qui le remet en marche.
Oui.
Mais est-ce volontaire ou pas, ça c'est difficile à dire. Et surtout que la purge, en fait, est provoquée par des êtres. Enfin, en fait, on en déduit que la purge qui se passait à l'époque des Martiens, c'est entre ceux qui avaient des pouvoirs et ceux qui n'en avaient pas.
Oui.
Enfin, quand on dit pouvoir, qui pouvait...
Ceux qui étaient comment? Oui, ceux qui avaient des mutations et les autres.
Voilà. Et c'est marrant, parce que ça se reproduit en fait chez nous. Et ce qui est, en fait, finalement, ça vient qu'aggraver quelque chose qu'on fait de manière naturelle. En fait, on a toujours peur de ce qui est différent.
Oui, et en fait, quand Thomas, ça a tendance à sous-entendre que si on a peur du différent, c'est exactement pour ça. C'est à cause d'une préprogrammation faite par les Martiens. Voilà.
Et surtout, aussi un cliché, là où il aurait pu tomber dans le cliché, c'est Quatermass, il en est victime.
Oui, c'est on peut se dire, oui, c'est le héros, donc il va rester à tête froide. Non, du tout, du tout. Il est sur le point de tuer.
Il est sur le point de tuer son copain, en fait.
Ouais.
Rodney, honnêtement, à un moment, il est prêt à le tuer. Mais c'est ça aurait vraiment. Il y a pas mal d'endroits où ça aurait pu tomber dans le cliché. C'est pareil, l'assistante de Rodney.
Oui.
C'est pas seulement la fille en détresse, c'est quand même une fille assez forte qui a un caractère
Elle essaye
qui est
de.
assez intelligente d'ailleurs.
Ouais, à un moment donné, elle essaye même de tuer le Capitaine Potter quand
Voilà.
elle est sous l'emprise du truc, quoi.
Il y a même un moment, son patron qui balance un commentaire comme quoi c'est une femme, elle va chez le coiffeur, tout ça, alors qu'en fait,
Non, elle faisait des recherches.
elle faisait des
Elle
recherches,
l'envoie
quoi.
chier.
Elle l'envoie chier, ouais. Et ça, c'est vraiment aussi intéressant comme personnage parce que c'est quand même un personnage vachement féministe pour l'époque.
Oui.
Ce qui n'était pas ultra courant, mais Quatermass a toujours écrit des personnages comme ça, féminins.
Neil.
Oui, Neige. Neige O'Neill, oui. Voilà. Donc, c'est une bonne pioche cette histoire, je trouve.
Oui.
C'est vraiment une. T'as quelque chose à rajouter?
Pas spécialement. J'ai toujours l'impression que c'est très court quand on parle de Quatermass alors que c'est très riche. Mais c'est difficile à. Il faut le voir, quoi. C'est
À
ça le
décrire, à
problème.
résumer, en fait.
Voilà.
On peut dire pourquoi c'est génial. On
Voilà.
peut dire aussi en quoi il y a des trucs un peu moins bien quand même.
Qu'est-ce que tu trouverais d'un peu moins bien dans ce Quatermass-là?
Bah, c'est pas tellement moins bien, mais c'est vrai que maintenant 58, ça commence à devenir vieux
Oui.
pour. C'est
Il y a eu certains. Alors, en fait, là, par contre, par rapport aux autres, je trouve que il y a très peu de choses à couper, dans le sens pour rendre ça plus dynamique, enfin, pour rendre l'histoire plus rapide, il y a très
L'histoire
peu
est
de choses
assez
à couper,
concise
et
en.
déjà très dense et très concise.
En soi, ça se passe sur assez peu de jours. Et l'histoire est assez concise, quoi. On est toujours à peu près autour du lieu de la découverte. Il n'y a pas de blabla pour remplir, en fait. Il y en a assez peu.
Et les seules scènes de blabla pour remplir, c'est souvent pour avoir un autre point de vue de l'histoire, ce qui rend plus riche, notamment par exemple au début de la vague de folie qui prend Londres,
Oui.
on assiste à une scène dans un pub où les gens regardent à la télé ce qui se passe
Ouais.
dans le pit, enfin là où on a creusé, quoi. Et on peut se dire, ouais, est-ce que cette scène sert à quelque chose? Mais en fait, si, elle sert vraiment à quelque chose. C'est juste qu'on ne le voit pas tout de suite.
Ouais, elle sert aussi à voir des gens qui n'en ont rien à foutre, qui s'y
Oui.
intéressent pas, quoi, au final.
Ouais.
Ils regardent la télé, oh, ça coupe, et puis t'as les commentaires. Ouais, bande de rigolos, tu vois.
Ouais.
Bande de. Non, non, c'est vrai qu'il y a assez peu. L'histoire est beaucoup plus maîtrisée. Et je pense que ça vient du fait que là, Neil maîtrisait vraiment ses scénarios, en fait. C'est ça, en fait, c'est comparé à Quatermass 2 qui est plus lent dans son histoire,
Ouais,
effectivement.
honnêtement, oui, effectivement, il y a des rallonges dans Quatermass 2 qui servaient peut-être pas à grand-chose.
Mais après Quatermass 4, si tu regardes aussi, il y a quelques longueurs.
y a quelques longueurs aussi. Ça, je suis d'accord. C'est peut-être pour ça, quand tu dis que Quatermass and the Pit est meilleur, je pense que c'est à ce niveau-là qu'elle est meilleure, c'est que l'histoire est beaucoup plus concise, efficace. C'est l'équilibre parfait, en fait, à ce niveau-là.
Bah, de tous les nages dans le Nil, je pense que c'est l'un des plus réussis. Si ce n'est le plus réussi.
Oui.
Toi, tu les as pas encore tous vus, il y en a quand même pas mal. Mais parmi tous ceux qu'il y a eu, c'est le plus. En fait, c'est celui qui a déjà un plus gros budget, plus de moyens par rapport aux autres, puisque le décor est quand même assez grand.
Oui.
Il y a pas mal de séquences qui sont tournées, enfin pas mal, il y a quelques séquences qui sont tournées en extérieur, en décor réel. Donc c'est déjà à ce niveau-là, c'est intéressant. Et surtout, oui, l'histoire en fait. Et l'histoire est simple, quoi. Il n'y a pas beaucoup de lieux, il n'y a pas trop de personnages.
Non.
C'est ça
et
qui
on
fait
arrive
bien.
à s'attacher à tout le monde,
Ouais.
quoi.
C'est ça. Quatermass 4, déjà, est un peu plus. En fait, le problème de Quatermass 4, c'est qu'il est tellement négatif, en fait, dans son
Oui.
histoire. Ce qui le rend génial. C'est pas un défaut en soi. Mais il est tellement négatif qu'au final, ça devient de baisser le moral, c'est
Oui.
tout. Alors que là, il n'y a rien de minant pour le moral, au final.
Oh, bah, j'avais oublié à quel point il y avait autant de personnages que j'aimais bien qui crevaient, mais bon.
Mais
C'est
il y
un
a, y a, y a
problème.
un truc aussi qui est marrant, et on s'était posé la question, c'est qu'il y a plusieurs moments où la phrase We are the Martians,
Oui.
nous sommes les Martiens, revient, qui pourrait être une référence en fait à Ray Bradbury.
Oui, aux Chroniques martiennes, parce que c'est l'une des dernières phrases
Du bouquin.
du bouquin. Et effectivement, c'est sorti quelques années avant. Donc ça serait pas du tout improbable que ça soit une référence ou au moins un hommage ou en tout cas une convergence
L'idée.
d'idées, oui.
Oui, je pense que c'est à cette époque-là où on commençait à en savoir un peu plus sur Mars, en fait, aussi.
Oui.
On n'avait pas encore de photos de Mars, encore, parce que ce sera après Captain Scarlet, par exemple, enfin, pendant la production de Captain Scarlet, qu'on aura les premières photos de Mars.
Ah oui.
Puisque,
Oui, mystère.
justement. Ben oui, mais c'est ça, Gerry Anderson avait fait le choix, en fait, de rendre les Mystérons invisibles, qui sont les Martiens, en fait, de cette histoire. De cette série, pour éviter, parce qu'on ne savait pas à quoi Mars ressemblait vraiment,
Ouais.
et donc c'était pour éviter d'être erroné 3 mois après, quoi.
Oui.
D'ailleurs, dans l'histoire, Mars, enfin dans la série télé, Mars est gris comme la Lune, alors qu'en fait, maintenant on
Merci.
sait qu'elle est
Oui,
globalement
bah.
rouge à
Ouais.
cause de la Terre, quoi.
Effectivement.
Donc.
Effectivement, c'est vrai, ça m'avait pas perturbé plus que ça, mais t'as raison, Mars est pas rouge. C'est
Dans le
bizarre.
Captain Scarlet, non.
Ouais.
Et chose assez marrante, c'est que pour le Blu-ray, ça a été modifié pour le premier épisode. Mais je crois que pour les 3 épisodes qui se passent. Enfin, non, non, c'est sur la Lune, donc ça va.
Non, non, l'autre c'est sur la lune,
Oui, c'est
celui-là.
vrai, sur la Lune, j'allais dire une bêtise. Mais pour le premier épisode, ils ont corrigé la couleur pour le
Ouais.
Blu-ray. Je trouve ça ridicule, mais bon. Ça va, c'est pas grave, c'est une série.
Oui.
C'est pas grave. Elle était erronée à l'époque, c'est pas grave. Voilà. Bon, le prochain, ce sera Quatermass 4. On en
En tout
profitera
cas, le
pour revoir.
premier, le prochain 14 mars dont on parlera, hein, parce qu'on va parler d'autres choses
Oui, on va
entre-temps.
parler d'autres choses. Je ne sais pas quand cet épisode
Hein.
va se glisser,
Dans 6 mois, à
honnêtement.
mon avis, parce qu'on a quand même pas mal beaucoup d'avance là. Hein.
Non, on a. Ouais, non, pas 6 mois, mais on a 3-4 épisodes d'avance. Donc, au moment où vous enregistrez ça.
Oui.
Ou vous écoutez ça, on ne sait plus où on en est. On verra bien. Mais on parlera d'autres Nigel Neal plus courts. Il y en a d'autres beaucoup plus courts. On a déjà parlé de The Crunch, mais on parlera d'une histoire entièrement ancrée et vraiment bien écrite sur le féminisme. Ouais. Et ça fait pas mansplaining.
Étrange.
Ouais, c'est possible.
En tout cas, on parle d'unité et tout ça, mais nous, on a extrêmement peu d'unité en termes de durée d'épisode.
Ouais, mais c'est pas grave, c'est ça qui est bien.
Hein.
Bref, rendez-vous au prochain épisode. J'espère que vous avez regardé pas mal de choses. Nous, on va essayer d'avoir BritBox entre-temps, et si jamais on a réussi, on vous expliquera comment faire.
Ce serait cool, ouais.
Et ça nécessitera peut-être l'utilisation d'une cuillère, d'un trombone et d'un compte en banque anglais.
Oui, et sans oublier d'une pomme de terre dans une boîte.
Et de NordVPN.
Ou tout autre VPN d'ailleurs.
Voilà, on n'est pas encore sponsorisé, c'est
Ah
dommage.
bah Quatermass VPN justement.
Quatermass VPN.
Est-ce qu'à un moment donné, il utilise le terme proxy, ça m'a fait hurler de rire parce
Bah,
qu'on parlait de BFVPN juste avant.
il y a dans les mots qui sont dépassés maintenant au niveau de leur sens, il y a aussi le mot queer qui est souvent utilisé.
Oui.
et qui n'a pas du tout le même sens maintenant. Même
Non.
si le sens est proche, en fait, parce que...
Bah, c'est étrange,
Oui, c'est
c'est
ça que c'est
étrange en
étrange.
fait.
Mais maintenant, on n'utilise plus du tout le mot queer de la même.
Comme en anglais, des fois, t'es là quoi? Je pense que The Queerest Mast écrit comme ça. Alors.
L'homme gay dans la rue gay. Non, c'est pas ça. Bref, rendez-vous au prochain podcast et n'oubliez pas de regarder les programmes anglais. À bientôt.
À bientôt.
Thank you.